l'électricité.
Les 7 ans, les 20 ans de processus d'ouverture des marchés de l'énergie. Et je pense que ça n'est pas fini. Donc je voulais remercier Marc Thatcher pour ses commentaires sur les mythes qui sont tout à fait exacts, que je partage tout à fait. Mais je voulais en ajouter quelques autres et vous proposer quelques autres mythes. Et puis faire un commentaire et une question. Alors sur les mythes, j'ai sélectionné ça, je vais faire très vite parce que chacun de ces mythes-là, à mon avis, on pourra avoir une discussion technique assez approfondie. Mais ils sont autour de l'ouverture des marchés. Le premier, c'est l'ouverture des marchés. Je vais parler sur le prisme uniquement sur le secteur de l'énergie, celui que je connais mieux. L'ouverture des marchés fait baisser les prix. Je constate que les prix de marché en Europe ne font que croître. Ils le font sous l'effet, effectivement, de facteurs externes, comme l'évolution du prix du pétrole sur lequel est annexé le prix du gaz. Mais, en tout cas, dans les différentiels de prix entre France et le reste de l'Europe, il est clair, et ça on peut l'étudier, c'est que le schéma technico-économique qui a été mis en place ne peut conduire que à des augmentations de prix à prix gaz constant. Vous êtes indexé sur un. Alors c'est un peu technique pour ceux qui ne connaissent pas bien cette terminologie. Vous êtes indexé sur le coût marginal de production qui en Europe est essentiellement du cycle combiné au gaz, qui aujourd'hui n'est pas du tout le référent de point, en tout cas de la France. Donc il y a effectivement des effets par la construction même du schéma qui font que les prix dans l'énergie, chose que je ne dirais pas obligatoirement dans d'autres secteurs. La concurrence améliore les services aux clients. Les dégâts sur l'offre aux clients sont quand même relativement importants. Il y a effectivement une plus grande diversité des offres. Comme je suis un garçon pondéré, je vais donner quelques éclairages positifs et négatifs. Il y a effectivement une plus grande diversité d'offres qui est totalement positive. Mais on est obligé de mettre en place des protections de consommateurs, d'ailleurs, qui sont prévues dans les directives, extrêmement importantes, et en particulier le traitement des déchets devient un problème vraiment très important, en particulier les collectivités sont préoccupées, en tout cas en France, et il y a un gros travail à faire. Les organes de régulation sont indépendants. Les organes de régulation, l'intérêt des organes de régulation, c'est effectivement d'avoir sorti, d'externaliser en tout cas certaines fonctions et analyses qui étaient internalisées, et je parle en particulier en France, dans les grands groupes énergéticiens. Moi, je pense que c'est un point extrêmement positif. Par contre, à l'inverse, elle reste sous influence, et pas seulement en France, des États, d'ailleurs je m'en félicite, mais on n'a pas attendu le processus européen pour que, par exemple, nos amis belges avaient mis en place un système de coordination, un comité de coordination des prix du gaz, extrêmement ouvert aux parties prenantes, à la fois les économistes et les confédérations syndicales et aux industries. C'est extrêmement intelligent d'ores et déjà. Donc c'est une bonne idée, mais par contre, il faut faire très attention lorsqu'on dit qu'elles sont indépendantes. C'est un petit peu plus compliqué pour en faire un niveau. La séparation patrimoniale des infrastructures à l'intérieur des entreprises, des grandes entreprises intégrées, améliore la concurrence. Un raccourci, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On a pu montrer, et notamment l'exemple français, le RTE, je le dis encore plus facilement, je ne vais pas prendre le RTE, est un exemple extrêmement important, puisque les industriels français ont considéré que, bien qu'étant à l'intérieur d'un groupe intégré, le service rendu, y compris les concurrents, considéraient que c'était très bien rendu. Donc il existe des mécanismes. D'ailleurs, la dernière directive fait bien un point d'équilibre intelligent, laissant les deux options ouvertes. La privatisation, qui est un sujet, et là je partage tout à fait votre analyse, qui est un choix des États, ça ne relève pas de l'avenir. C'est un choix des États, il y a eu des jeux d'opportunités par les acteurs. La privatisation permet de financer des nouveaux investissements. On sait très bien, c'est le financement de ce sujet, qu'il y a d'autres moyens que cela pour aller, il n'y a pas besoin d'aller obligatoirement sur les marchés boursiers. Ça induit d'autres phénomènes sur la gestion des groupes que je ne commenterai pas ici, c'est un sujet très large. Et enfin, la concurrence favorise l'innovation. C'est exact, il y a certainement un certain nombre de maillots sur lesquels on a eu des processus d'innovation. On a une grosse difficulté sur les développements des grands programmes industriels très lourds, puisque la compétition entre les groupes peut limiter et affaiblir la capacité de coopération sur les programmes industriels de grande ampleur, ce qui est un peu le cas dans l'énergie qu'on connaît. Alors ces commentaires, rapidement, il y a du plus et du moins, simplement pour dire que lorsqu'on, de la même façon que vous avez lancé le livre, il y a un certain nombre de mythes pour les tenants de l'ouverture totale des marchés, et à mon avis c'est une analyse précise, et je vais y venir, qui permettrait d'avancer de façon ou d'infrastructure. Donc en fait, là ce qu'on constate, c'est une bataille, c'est le résultat aujourd'hui, c'est qu'il y a une bataille sur les modèles économiques. Le modèle économique dominant étant aujourd'hui celui qui vient d'être décrit pour partie, sachant qu'il y en a d'autres qui n'ont sans doute pas su se battre suffisamment pour s'imposer. Ça c'est clair. Alors maintenant on est là aussi pour faire de l'économie de la politique. Surtout sur les industries d'infrastructure, ce qu'on appelle industrie de service public, qui est un concept très français, mais qui derrière convoie quand même à des préoccupations territoriales, et d'enjeux sociaux et politiques. Et la question clé, c'est bien celle de la compétitivité et d'efficacité. Ça, je crois qu'on est d'accord tout ça dessus, quelquefois le modèle, et on a des solutions en termes de modèle qui peuvent être différents. Et notamment la préparation du long terme. Les deux facteurs, j'avais déjà dit, qui me semblent extrêmement importants, c'est un, les paramètres de prix et d'investissement. A-t-on des systèmes, des modèles, où mettons en place concrètement des modèles économiques qui vont permettre à la fois de sécuriser les prix pour les entreprises et pour les particuliers et d'envoyer les bons signaux économiques pour les investissements. Et là, il y a débat. Je pense qu'il y a débat. Et le deuxième facteur qu'on regarde de l'énergie, c'est la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique, qui renvoie là à une autre dimension qui est la géopolitique, qui n'a pas été évoquée, mais qui est dominante dans la question. Il suffit de voir, de toute façon, en tout cas, c'est mon interprétation, dont la Commission a fait progressivement basculer, a ouvert son champ entre les années 80 et 90, se rendant compte que l'ouverture des marchés à l'Est ne se faisait pas, notamment dans la Russie, ne se faisait pas tout à fait de la même façon qu'elle avait conçu initialement, c'est-à-dire que les investissements restaient quand même relativement bien pilotés par les virus. Il y a bien la problématique quand on voit la dépendance énergétique de l'Europe passer, ce sont les textes de la Commission, de 50% à 70% en perspective, il y a un vrai enjeu stratégique. Donc, c'est cette mise en perspective stratégique qui renvoie à une question politique majeure, et les arbitrages que les États doivent prendre au sein du Conseil, qu'il faut aussi avoir, en tout cas autour de la question de l'énergie, me semble-t-il. Alors ma question est la suivante, au-delà des mythes, le modèle est un modèle dominant qui est celui-là, qui va continuer à avancer, je suis tout à fait d'accord sur la politique du PIPA, avec du jeu sur les acteurs européens et nationaux, m'en semble-t-il, il faut analyser la durée qui sont extrêmement intéressants. Quelles sont les politiques, quels sont les schémas, ma question est la suivante, quels sont les schémas d'évaluation des politiques européennes qui vont être proposées aujourd'hui. C'est un débat qui a été proposé par certaines associations, qui avaient fait des propositions sur la table, notamment pour avoir des schémas d'évaluation des politiques européennes qui soient multipartis et qui soient très transparents. Je ne souhaite pas revoir ce qui s'est passé entre la directive de 96 et celle de 2003, où il y a une évaluation qui a été prévue, et cette évaluation, c'est très bien à quoi elle a conduit. Elle n'a pas été ouverte, dans mon sens, suffisamment pour permettre de prendre en compte justement tout ce pas. Panorama géopolitique et social.
Ok, merci. Je pense qu'il y a d'autres questions de commentaires.
C'est un débat. Je pense que
dans ce prisme, je vous remercie. La question est vaste. L'énergie, on peut passer. Je vais essayer de votre intervention qui a beaucoup d'éléments. On va essayer à répondre à quelques-uns.
Je prends très bien.
Je propose de continuer s'il y a d'autres commentaires ou questions.
Bonjour François Bell, je travaille à la Poste, dans le service public aussi il y a quelques instants. Ce n'est pas tout à fait les mêmes problématiques que les entreprises énergétiques et les entreprises de télécommunications. On en parle beaucoup avec le changement de statut. C'est aujourd'hui en 2020, c'est une ouverture du capital de la Poste, mais avec le maintien de son capital dans la sphère publique. Et ma question est la suivante, puisque l'idée, c'est d'ouvrir le capital de l'entreprise publique de la Poste, en lui faisant rentrer la caisse des dépôts et consignations. Il va beaucoup changer. Alors, on parle de privatisation, par ailleurs, de manière sans doute un peu abusive, en tout cas dans l'instant, parce qu'on ne sait pas de quoi vous m'avez fait. Ma question est la suivante. Si la Poste aujourd'hui a besoin d'ouvrir son capital, c'est qu'elle n'a pas une marge de manœuvre financière pour son développement économique. Donc ce n'est pas une problématique liée à un contexte strict au sens du droit européen, mais bien de développement d'entreprise. Elle n'a pas ses marges de manœuvre, quand elle a été créée en tant qu'établissement public en 1990, elle a hérité de la dette qu'avait contractée pour elle l'ex-administration des PPP, qui représentait 40 milliards de francs, 6 milliards d'euros, ce qui est à peu près le montant de la dette qui est encore la sienne. marge de manœuvre vienne d'une incapacité à financer sa croissance par l'endettement. La question très précisément est la suivante. Aujourd'hui, on dit une aide d'État à la Poste par rapport au capital direct par l'État ou par un financement serait insupportable au sens premier du terme par l'échelon européen. En quoi l'entrée au capital de la Caisse des dépôts, dont le lien avec l'État est particulièrement faible, comme chacun sait, serait-elle incompatible avec le droit européen ? Voilà.
Ok, merci. Dernière question, puis on va.
Question de cette loi.
Oui, un commentaire sur cette approche, effectivement, et pour préciser dans l'instrumentalisation de l'Europe, je dirais qu'en France, on est quand même un peu habitué aussi, parce qu'on a un certain nombre d'élus nationaux, députés, sénateurs par définition, qui sont des élus locaux, et on a le sentiment que quand ils viennent sur leur territoire, dit l'État nous oblige aussi à cela, ils oublient qu'ils ont contribué à faire adopter des lois dont ils contestent ensuite la pertinence à l'échelle locale. Donc ça se joue, c'est un sport qui se joue au niveau national, au niveau européen, c'est un sport politique qui ne permet pas d'avoir une vision très claire, mais j'aurais envie de dire on est un peu habitué. Malgré tout, moi, je trouve qu'il y a un problème qui est assez fort. Je regardais là, le dernier livre vert RTET, la révision de RTET Transport. Alors, il y a l'émergence de cette notion de pilier théorique. Je trouve que ça a à voir un peu avec ce que j'ai voulu dire, de cette virtualisation des sous-bassements de l'approche économique. Et sur les réseaux, je trouve ça assez clair. C'est-à-dire que la question des réseaux, à mon avis, ne peut pas se poser de la même manière en fonction de leurs caractéristiques techniques et de ce qu'on lit. À tel point qu'aujourd'hui, moi je trouve que le rôle de RTET, qui est d'assurer, je dirais, une fourniture d'ensemble avec une contrainte de qualité, de constance, etc., c'est pas la même chose qu'un réseau ferré, parce que, je le disais hier, quand on fait circuler des électrons, on n'est plus à savoir à un moment donné si c'est un électron qui est produit avec une énergie verte ou il est produit dans une centrale nucléaire ou autre chose, il faut assurer la fourniture. Et puis on a donc cette segmentation entre la production avec la base électronucléaire française, qui constitue aussi une forme de monopole naturel. Là, quand on voit les enjeux, tout le monde ne va pas demain construire sa centrale. Le RTET, et puis la distribution totalement en aval, on a le sentiment que cette logique sous-jacente de marché qui va faciliter les choses, etc., ne fonctionne pas bien, y compris ça pose aujourd'hui le problème de comment on articule, y compris dans la fourniture finale et dans le fait de mettre finalement le consommateur en position d'arbitrage, comment on garantit une capacité d'investissement. Et puis, sur la capacité d'arbitrage du consommateur, c'est quand même amusant qu'aujourd'hui, on se réfère à la pensée économique des hétérodoxes, et notamment à des gens comme Joseph Stiglitz, qui s'est fait connaître par le fait que sur les marchés, il y a un rapport asymétrique entre l'offreur et le demandeur. Et à un niveau très particulier du consommateur final, si aujourd'hui, on doit comparer tous les éléments, l'offre commerciale dans les services de téléphonie ou demain à d'autres niveaux, on est incapable de faire, il faudrait y passer énormément de temps. Et ce qui m'amusait, c'est qu'y compris l'autre jour, j'entendais aux journées parlementaires à la maison de la chimie, le porte-parole de l'UFC que choisir, qui exprimait lui-même ses difficultés à y voir clair. Donc ça rejoint l'idée que, effectivement, cette forme, il ne s'agit pas de dire qu'on dérèglemente, parce que, effectivement, la marchandisation amène de nouvelles normes réglementaires, mais d'une complexité telle qu'in fine, eh bien, l'utilisateur n'y gagne pas, je dirais, économiquement, parce que ça devient d'une complexité telle qu'il n'a pas la compétence requise pour en sortir. Et je pense que ça, il faut aussi l'avoir respecté.
Coordination. deux trois choses qui sont peut-être plus analytiques. Premièrement, je dirais que la tendance n'est pas tout à fait dans une direction. Là, je vais donner des exemples qui peut-être vont vous surprendre. L'Angleterre. Parce que l'Angleterre a de facto renationalisé une partie de ses chemins de fer. Et, certainement, l'industrie nucléaire. Donc, l'idée que tous les pays vont vers un marché qu'on appelle, à mon avis, parfois sans sens, un marché libéral, ce n'est pas vrai. On voit des contre-tendances. Pour vous donner un exemple vraiment frappant, la semaine dernière, il y a une commission anglaise sur des questions énergétiques qui a dit que si l'Angleterre veut arriver à tenir ses objectifs climatiques, il va falloir retourner en arrière pour la libéralisation du marché énergétique. Donc, il y a un véritable débat et peut-être des contre-tendances qui sont surprenantes.